Aligre FM 93.1.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Dans cette émission, nous reviendrons sur un auteur, un des quatre papas du cinéma hongkongais, celui qui murmure à l'oreille des colombes et des Beretta 9 mm, j'ai nommé John Woo. John Woo parce qu'il y a un événement, sans doute l'événement cinématographique de l'année. Le 27 août prochain ressort en salle en 4K remasterisé Hard Boiled. Côté musique, nous écouterons I'm Coming Home de Iron Horse et Country Life de Bobby Whitlock. Popcorn et Banjo, la 11e, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti!
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Alors, le cinéma hongkongais, c'est le cinéma de la passion, hein, le cinéma de la passion des mafieux, la passion des flics, la passion du fric, des armes, mais aussi de l'humour un peu gras, des colombes et des pigeons, des mecs qui volent dans tous les sens, bref, un grand cinéma. Trêve de plaisanterie, c'est un cinéma que j'aime énormément et qui donne régulièrement des leçons au cinéma hollywoodien. Rapidement, il y a quatre très grands réals à Hong Kong, Johnny To, Ringo Lam, Tsui Hark, John Woo, qui travaillent d'ailleurs parfois ensemble, hein, ils se produisent les films des uns et des autres. Tsui Hark, par exemple, il produit The Killer, de film de 89 de John Woo, et puis John Woo, il va produire Le Syndicat du Crime la même année de Tsui Hark. Ils ont même fait Triangle en 2007, qui est un cadavre exquis, hein, où il y a trois des quatre grands réals, et évidemment, il n'y a pas John Woo dedans, mais c'est un cadavre exquis co-réalisé entre Johnny To, Ringo Lam et Tsui Hark, où il y en a un qui réalise le début, l'autre le milieu et le troisième la fin du film. Le film n'est pas dingue, mais c'est plutôt une très bonne idée. En tout cas, tous ces films-là font paraître une forme de liberté assez extraordinaire, hein, qu'il y avait à Hong Kong dans les années 70, 80, 90, 2000. Jusqu'à récemment, où j'avoue, je ne suis plus vraiment ce qui s'y passe depuis le mouvement des parapluies de 2014. On est donc en 1992 avec Hard Boiled, et qui est un des très grands films de John Woo. John Woo, c'est vraiment le grand cinéaste du gunfight, hein, la générosité des scènes d'action, l'inventivité, le rapport à l'espace. On n'a jamais le sentiment de la lourdeur technique, de la technique cinématographique avec John Woo. C'est très, très spécifique. On dirait qu'il tourne tout en mini-DV presque. Tu sais que sa caméra pèse genre 10 grammes et qu'il peut se faufiler partout. C'est un cinéaste qui est très, très important parce que c'est le premier réalisateur asiatique à tourner un blockbuster américain. On y reviendra, hein, c'est Hard Target en 93. On va même lui proposer, figure-toi, de tourner GoldenEye en 1995, qu'il va refuser. Je sais qu'on aime beaucoup GoldenEye de notre cher Martin Campbell. En tout cas, il refuse. Et puis, en 2005, il est aussi le cinquième réalisateur chinois à être invité comme membre du jury à Cannes après Tsui Hark. Donc voilà, ces gars-là, c'est des gars importants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Il y a donc cet événement énorme, hein, 27 août prochain, en 4K remasterisé. Il y avait des gros problèmes de droit jusqu'à présent sur à peu près tous les films de John Woo de ces années-là, The Killer, Une balle dans la tête. C'est pour ça qu'ils existaient peu, à part dans la collection Hong Kong Vidéo, hein, vieille collection DVD qui est géniale, mais qui est un peu passée. Et donc, ressort Hard Boiled en salle. Alors, petite présentation du film avant de savoir ce que toi, Charles, tu en penses. Eh bien, Hard Boiled, c'est compliqué à résumer. Hein. C'est un énorme film d'action avec 2 heures de film, 1 heure de scène d'action au bas mot. C'est l'histoire d'un flic qui traque un mafieux avec des flics infiltrés, des guerres de gangs de mafieux entre eux, une prise d'otage dans un hôpital, une scène d'action dans un salon de thé. Je sais pas, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses sur la présentation de ce film?
Du jazz.
C'est vrai.
Du jazz. James Bond.
Oui.
Et puis
John Woo
et Monsieur Woo.
Alors ça, c'est assez incroyable.
Qui donne son avis géopolitique En fait, il s'écrit des questions directement dans son film, et puis il apparaît dedans pour y répondre. Je trouve ça assez génial.
C'est assez incroyable. Et il revient dans pas mal de scènes.
Ah oui, oui.
Il est au moins dans 3-4 scènes.
Parce que moi, je connais pas très bien le cinéma hongkongais, donc je croyais que c'était... Enfin, et son cinéma, le cinéma de Junho. Donc je croyais que tu allais me dire qu'il revient dans tous ses films.
Non, c'est pas genre Hitchcock...
Et qu'il revient toujours en Monsieur Wu. À chaque fois, il vient pour dire « Qu'est-ce que vous pensez alors des armes dans la police ?» Il fait « Bah, c'est hyper bien. De toute façon, il y a deux choses. Il y a Dieu et les armes à feu. »
Ouais.
Tu fais « Ok, très bien, très bien. »
Non, c'est vrai que son personnage est très étonnant. Il valide beaucoup de choses assez dingo.
Mais ouais, Hard Boiled, c'est quand même mortel. C'est vrai que je pense que t'as un peu tout résumé. C'est un film qui est très généreux en action. Et qui mélange tellement de choses, vraiment. Il y a une base secrète de mafieux, il y a des guerres de mafia, il y a...
Il y a un moment où ça bascule côté James Bond, comme tu dis, quoi.
Ah bah, il y a un moment, c'est quand même délirant, quoi. Mais du coup, c'est vrai que tu t'ennuies jamais dans ce film-là. Il est vraiment généreux à tout point de vue. Il y a quand même des scènes d'action qui sont en plus très, très bien réalisées.
Ouais.
Et c'est ce qu'on se disait en regardant le film. C'est que ça manque un peu ce genre d'effet vraiment de props, quoi.
Ouais, l'effet pratique.
D'effet pratique partout, tout le temps. Il y a des flammes, il y a des gens qui prennent feu sans arrêt, il y a des explosions à foison, il y a des gens qui passent à travers les vitres et tu sens que d'abord la balle impacte, enfin je sais pas comment dire, non, ouais. Plutôt il saute d'abord et ensuite tu sens que le gilet explose, tu vois.
Ouais, ouais, ouais,
il y a carrément. Un truc comme ça parfois où t'as une espèce de magie, une saveur de la cascade qui réapparaît en fait et que j'avais presque oublié. Parce que même quand tu vois des trucs, c'est ce qu'on disait aussi en off, on va dire, des films comme John Wick qui quand même sont hyper référencés, bah mine de rien, je retrouve pas du tout cette sensation là.
Et je sais pas ce que t'en penses, mais typiquement John Wick, c'est évidemment très généreux en action, mais il y a un moment où ça devient un peu lassant, on s'emmerde un peu, quoi. Et là, honnêtement, moi je m'emmerde pas une seconde dans les scènes d'action alors que c'est du non-stop. Hein.
Ouais, mais je crois aussi c'est parce que les personnages sont beaucoup plus généreux aussi que Keanu Reeves qui fait la gueule pendant 4 épisodes, quoi.
Mais tu crois pas que c'est un peu lié aussi à la mise en scène, au... Je sais pas, moi je le sens un peu comme ça.
De toute façon, on va... Ça, c'est clairement... Après, je connais pas... Encore une fois, moi, tout ce que j'ai vu de John Woo, c'est Volteface, donc je suis pas... je connais pas hyper bien son cinéma, et Paycheck, Mission Impossible. Mais c'est vrai que bon... Ouais, Mission Impossible 2, mais c'est vrai que je suis pas grand connaisseur. Après, je vois ce qu'il fait, mais en termes de mise en scène, je trouve que c'est incomparable de technicité et de savoir-faire. Mais oui, en mise en scène, c'est sûr. Mais je crois qu'encore une fois, quand même, le personnage de John Wick, même s'il est très badass, c'est vrai, mais en fait, tu t'emmerdes, quoi. Le mec, t'en as rien à faire de lui. Alors que dans les films que j'ai vus, quand même, à chaque fois, même on pourra reparler de Chasse à l'homme, qui est quand même peut-être le moins bon de la sélection, entre guillemets, moins bon, parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme, donc ça peut pas être complètement mauvais, mais... Mais il y a vraiment...
S'attache au personnage.
Non, et puis même, il y a de la... Moins dans Hardball, plus dans...
The Killer,
mais il y a vraiment beaucoup de poésie. Quand il a envie d'en mettre, en tout cas. Et ça change vraiment la tessiture et la donne, en fait. Ces personnages sont vraiment moteurs et véhiculent vraiment de l'émotion, ce qui n'est pas du tout le cas de John Wick, ou même, en vérité, de pas mal de gros blockbusters ces temps-ci, où t'en as un peu rien à cirer des personnages, quoi.
Mais c'est vrai, tu vois, il y avait quand même des scènes de tension dans Hard Boiled avec les méchants et tout. Tu te dis, oh là là, c'est assez hardcore. Il y a des vraies scènes. Les méchants, ils ont une vraie identité. Ils défendent vraiment un truc. Et c'est vrai que dans tous ces gros films d'action qui se veulent quand même, qui sont des héritiers de John Woo et du John Woo des années 90, en fait, ils récupèrent une forme de maestria de gunfight, même s'ils n'atteignent pas le niveau de John Woo, ils sont très loin de ce niveau-là, mais ils en oublient que derrière, il y a tout ce côté un peu romantique, un peu étrange, avec ces ralentis sur les visages des personnages, et parfois, on peut en rire, et en fait, petit à petit, on se fait happer dans le film, et ça nous rattrape, quoi, et on est avec ces gars-là.
Je crois aussi que le cinéma, en tout cas, d'action moderne, pas tout le cinéma d'action, bien sûr, il y a encore des films que j'aime beaucoup, mais la plupart du temps, on s'ennuie parce que c'est mal écrit. Et là, ça ne veut pas dire que John Woo est un génie de l'écriture, loin de là. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça complètement. Mais par contre, il y a une vraie envie de proposer quelque chose, je ne sais pas, de nouveau, mais en tout cas, au moins d'aller quelque part avec ces personnages. C'est-à-dire, ils ont tous des motivations, ils ont tous quand même une certaine valeur, et surtout, ils coexistent entre eux. On sent bien qu'il y a toujours des...
Ouais, c'est
en
vrai.
Tout cas, dans tous les personnages, dans les trois films que j'ai vus, là, à l'occasion, tous les personnages fonctionnent quasiment en duo. Dans le sens où t'as, dans Hardboiled, t'as le flic infiltré et le flic un peu bang-bang,
badass.
Dans
The Killer,
c'est
la femme.
Pour moi, c'est plutôt. Alors, t'as ça, mais c'est plutôt. T'as le flic et le tueur à gages.
Ouais.
Et dans le Jean-Claude Van Damme, c'est plutôt Jean-Claude Van Damme contre le grand méchant qui est aussi une espèce de grand chasseur entre guillemets et qui.
Et il y a aussi le sidekick un peu plus âgé là.
Dans
le pote de Van Damme qui est hyper stylé.
Papy Poutine. Je sais plus comment il s'appelle.
Il est stylé.
Ouais, bah c'est... ouais, parce que ça se passe. Ça, on en reparlera, mais c'est dans l'univers Cajun et tout. C'est un délire, ouais. Je pense que vraiment, le film se passe à Nouvelle-Orléans juste pour dire que Jean-Claude Van Damme a un accent, quoi. Je pense qu'ils se sont dit où est-ce qu'on peut faire ça, parce que le mec, il a un accent à couper au couteau bien franchouillard. Il fait bon, bah, Nouvelle-Orléans. Et le mec
c'est
est Cajun,
possible,
quoi.
C'est possible. Petite spécificité de Hard Boiled, c'est un film qui emprunte beaucoup aux États-Unis. Tout en étant très très fort de culture hongkongaise et de style hongkongais, mais il y a quand même des clins d'œil à Blade Runner avec les petits origamis, des clins d'œil.
Ouais, tous les néons.
Les néons.
Il y a vraiment beaucoup de néons au début. Hein. Et le jazz un peu.
Le jazz, ouais, absolument. Des clins d'œil à Die Hard. Ça, c'est toi qui le faisais, qui le soulignais, hein, avec la fin du film notamment.
Oui, parce que c'est après.
James
oui, c'est
Bond.
Ça, c'est après. Ouais.
Et alors, figure-toi que. Il tourne Hard Boiled en 1992 avec un objectif très clair. Il veut aller à Hollywood et il se dit Hard Boiled sera mon ticket d'entrée pour aller à Hollywood et rien d'autre ne l'intéresse que de montrer ce qu'il sait faire. Un peu au détriment du scénario, et il va y arriver d'ailleurs, puisqu'il va réaliser l'année suivante en 1993 Hard Target. Il sera donc le premier Asiatique à réaliser une super production américaine. Et donc voilà, c'est son but en fait, c'est son ticket d'entrée.
Et ça, c'est sous l'impulsion, on est d'accord ? C'est sous l'impulsion de Jean-Claude Van Damme, ça ?
Oui,
comme à chaque
absolument.
Fois, non, parce que j'ai l'impression que Swark, c'est pareil, sauf
ouais.
que c'est moins bien passé.
97, 98, on a fait deux avec Swark quand même.
Ouais, mais je crois que les deux sont mal passés. Bon, après, il a fait un chef-d'œuvre qui est double team, mais...
Et moi, j'aime bien celui d'avant qu'il a fait.
Piège à Hong Kong ?
Ouais.
C'est ça ?
J'aime beaucoup. Tu l'as déjà vu ou pas ?
Ouais, et je l'aime moins parce qu'il y a déjà, il y a Rob, comment il s'appelle, le sidekick rigolo qui est relou, là.
Ah, je me souviens plus.
Et un combat d'anguille à un moment.
Bah, je me souviens de la folie de Swark, quoi.
Ouais.
Mais donc, c'est en tout cas, il veut montrer ce qu'il sait faire et il veut faire un film encore plus violent. Et le producteur l'arrête. Il veut qu'il y ait des bébés qui meurent et tout dans le film. Et le producteur l'arrête. Et c'est là où ils décident ensemble, ou en tout cas, je crois que c'est une décision du producteur, de faire un flic infiltré, enfin l'autre. Au départ, c'était un méchant, je crois.
Ah, okay.
Et puis, d'être dans quelque chose d'un petit peu plus. Un peu plus modéré, si j'ose dire, un peu plus graphique, un peu plus Sam Peckinpah, en fait, hein, qui est d'ailleurs un cinéaste qui adore John Woo.
Ah bah ça m'étonne pas, vu tous les ralentis qu'il fout dans ses films. Moi, j'en pouvais plus dans Hard Target. Vraiment, Van Damme au ralenti, sans arrêt, vraiment. Je te jure, j'ai remonté le film, il fait 30 minutes sans les ralentis. Hein. sérieusement, hein, c'est une dinguerie. Il y a trop de ralentis dans celui-là. Dans les autres, ça va, je trouve, parce qu'il y a une certaine poésie. Et je comprends le sens... parfois des ralentis, même si vraiment, je me dis que franchement, Zack Snyder, il a trouvé son maître en termes de ralentis. Mais dans le film de Van Damme, vraiment, il y a juste des moments où le mec, il allume une clope, mais juste pour prouver que c'est lui le dominant, tu vois. Et juste, il allume la clope et le briquet, tout est au ralenti. Tu fais, mais pourquoi ? Et tout est comme ça, tout le temps. Le mec, il regarde la meuf, là, qui... Enfin, et tout est...
Au début du film ?
Ouais, tout est au ralenti.
Aligre FM 93.1.
Bon, mais qu'est-ce que tu penses du personnage de John? C'est Boudreau, c'est ça? Le personnage de Van Damme, de mémoire. Il s'appelle Boudreau, je crois.
Ouais,
espèce
ouais,
de mec avec une coupe mulet.
Il s'appelle Chance Boudreau.
Chance Boudreau. Chance Boudreau. Extraordinaire. Moi, c'est un de mes Van Damme préférés et j'aime beaucoup Van Damme. Ouais, vraiment. Avec Bloodsport, qui est vraiment un grand film.
Ouais.
Mais Hard Target, moi, j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai découvert ça assez jeune. Hein.
Bah alors, expliquons alors, ouais, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est maintenant Chasse à l'homme. Du coup, c'est un film. Je reprends ma petite note qui date de 93, du coup, comme tu l'as dit.
Ouais.
Et qui, en fait, va raconter l'histoire de Jean-Claude Van Damme, qui est un ancien Marines, qui va aider une femme qui essaie de retrouver son père, qui était aussi un ancien Marines, qui est devenu SDF. Et en fait, ils vont se retrouver dans une espèce de machination où ils vont se rendre compte que des gens très très riches font de la chasse aux SDF. Voilà, tout simplement. Et c'est Van Damme contre les méchants qui font de la chasse aux SDF. C'est le film. Et il y a de l'arbalète, il y a des gens, des méchants très méchants.
Il y a des courses-poursuites en moto aussi qui sont folles.
Ouais, il y a des courses-poursuites en moto, il y a des courses-poursuites à pied, il y a des courses-poursuites.
Il y a, pour moi, la plus grande scène du film.
Il y a la Nouvelle-Orléans. C'est quoi la Nouvelle-Orléans ?
Est-ce que tu sais ce que, à ton avis, pour moi, est la plus grande scène du film ou pas ?
Alors, est-ce que c'est quand le vieux. Il tire une flèche et ça passe dans la gorge du gars.
Ça, pour moi, c'est la deuxième plus grande scène du film. J'adore ce personnage.
Surtout, t'as le papy qui fait tout exploser. Oui. Il part à cheval, il fait « Vous ne mourrez jamais !»
La course-poursuite où Van Damme est quand même à cheval avec une Winchester, poursuivi par un hélicoptère.
Mais ça dure pas très longtemps, ça.
Ouais, mais c'est extraordinaire.
Ça, vraiment, tu as vu, tu l'as vu il y a quelques temps, toi.
Oui, mais...
c'est ça, c'est un souvenir d'enfant, mec. Hein. Je te le dis tout de suite parce que vraiment, ça dure pas si longtemps que ça.
Ouais, enfin bon.
Mais c'est vrai que la course poursuite à moto, par contre, elle est assez longue.
Au début.
C'est plutôt au milieu du film, je dirais. Okay. Je m'en rends pas compte. Après, comme tout est. En fait, le temps se dilate et se. Tu sais, c'est un couloir du temps qui se dilate, qui se rétracte, qui s'agrandit tout sans arrêt, en fait, dans ce film-là. Parce que vraiment, je te jure, il y a des ralentis sans arrêt. Donc, en fait, à un moment, je sais même plus quelle heure on est. Quelle heure il est, tu vois. Quelle heure il est. Mais le film, en soi, pour moi, c'est quand même plus un nanar. Et même, je trouve qu'en termes de mise en scène, alors, je sais pas. Enfin, si. En fait, c'est ce que je me suis dit. Je crois savoir pourquoi c'est un nanar, alors que peut-être que les scènes d'action sont aussi bien réalisées. Et que Jean-Claude Van Damme, c'est là où je me dis aussi, Jean-Claude Van Damme, c'est un vrai cascadeur, quoi. C'est
énorme.
Pour le coup, il sait quand même bouger et tout. Et je crois que c'est parce que, en fait...
Bah, il a quand même un palmarès le kickboxing.
Côté... Ouais, mais le côté grandiloquent qui marche à Hong Kong marche peut-être un peu moins... quand c'est full américain. Dans le sens où c'est pas... Je pense pas que ce soit une question de est-ce que quelqu'un peut être hyper dans le drama et l'autre non, ou hyper exagéré ou pas. Je crois que c'est vraiment... ça s'ancre moins bien, en tout cas moi, dans mon imaginaire personnel, au cinéma américain et à ce... Enfin, en fait, tout devient too much sans arrêt. Avec Van Damme, en tout cas, dans celui-là.
Mais c'est un peu ce qui s'est passé, peut-être plus selon toi que moi, mais avec un peu Mission Impossible 2, par exemple, avec les flingues qui volent à la fin.
Mais toujours les colombes et tout ça. Et c'est là où tu fais... Et étonnamment, c'est des films, tu vois, qui ont moins bien vieilli, je trouve, que Hardboiled et The Killer, je trouve.
Mais je pense que même dans le cinéma hongkongais, et d'ailleurs un peu, en ouvrant un peu plus large dans le cinéma chinois aussi... avec la Shaw Brothers et tous ces studios, on est aussi habitué à voir les mecs voler, enfin un peu comme même dans Tigre et Dragon plus récemment, les mecs voler de bambou en bambou, Le Secret des Poignards Volants qui était dingue, je ne sais pas si tu l'as vu ce film-là.
Oui.
Mais il y a une espèce d'imaginaire et d'imagerie de choses qu'on accepte et peut-être qu'effectivement on l'accepte moins quand c'est Tom Cruise. Quoi,
on l'accepte quand c'est Matrix.
Ouais, c'est vrai.
Parce que...
Mais Matrix est vachement teinté de ce cinéma-là aussi.
Bah bien sûr, mais justement. Mais Matrix, ça marche bien, et je pense pas que ce soit une question de thune, je pense que c'est une question de comment maîtriser la narration qui est liée à cet épanchement, en fait, du trop-plein d'émotions et du trop-plein d'excès en tout genre. Et je pense que les sœurs Wachowski l'ont très bien compris. Ils l'ont très bien comprise. et dans Matrix 1, 2, 3, franchement, ça fait que voler sans arrêt et t'y crois. Alors, est-ce que c'est parce que ça se passe dans la Matrix? Enfin, après, il peut y avoir plein de raisons. N'empêche, mine de rien, elles ont capté un truc qui fait que ce cinéma d'action hyper. Parce que ça mitraille de partout le premier Matrix quand même. Il y a des flingues tout le temps, puis t'as l'armurerie.
Le deuxième
tout,
aussi. Hein. Ouais,
ah bah ouais, mais enfin, ouais. Tous.
Ouais.
Mais c'est vrai que. Et en fait, ça marche très bien. Alors que par exemple,
ouais, c'est vrai.
Le JCVD. Il y a un truc un peu, tu fais putain, c'est un peu ringardos quoi. Puis après, alors est-ce que la coupe mulet joue beaucoup aussi hein? On va pas se mentir, il a une coupe mulet les gars. Mais vraiment, c'est intense. Hein.
Après, petite quand même, petit bémol sur Neo qui vole. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Même si, en y repensant, là maintenant, je trouve ça cool, mais quand même, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que c'est un peu la limite de Matrix.
Ouais, ça me fait kiffer, j'avoue.
Bah...
Ça me fait, tout me fait kiffer dans Matrix, même le 3. Et même, je vais dire, j'aime bien le 4.
Je l'ai jamais vu.
Bah, moi, je trouve ça mortel, en vrai.
Ah ouais, vraiment.
Il est beaucoup moins bien, et c'est bizarre, mais j'adore le fait que une réalisatrice revienne 20 ans après avoir fini son travail et dire bah, maintenant c'est ça Matrix et voilà comment je le vois aujourd'hui. Et il y a plein de fausses notes et etc, mais je trouve qu'il est plus intéressant que ce que les gens ont, enfin les gens l'ont tellement bâché que,
mais j'avais même oublié en fait qu'il y avait le 4. Tout d'un coup tu me
bah, je l'ai si tu veux.
Bah ouais, il faut absolument que voilà. Tu regardes ce film.
Mais bon, en tout cas elles ont réussi à faire quelque chose que beaucoup de gens, ouais, et même des Hongkongais n'ont pas réussi à faire aux États-Unis, je trouve.
Ouais, je comprends.
En tout cas, en termes d'action et de ce que je connais, moi, du Van Damme qu'on a vu, mais même encore une fois du film que j'adore. Mais bon, c'est quand même un nanar aussi qui est double team, tu vois.
Ah ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que je crois qu'il y a pas mal de séries à Hongkongais justement qui ont été déçues, hein, de Hollywood. Faudrait que je me penche sur l'histoire de John Woo par rapport à ça. Mais Tsui Hark, typiquement, elle a été déçue. Et en fait, Jonito, il est jamais allé à Hollywood pour cette raison.
Mais je me demande si c'est pas parce que aussi, je sais que Tsui Hark, c'était ça aussi. Je pense qu'il y a tellement de problèmes avec les prods.
Ouais, bien sûr.
Qu'en vrai, en fait, t'as les Américains qui foutent un peu la merde dans la production et dans la réal. Et ce qui fait qu'à la fin, ça donne une espèce de justement de moite-moite où c'est pas complètement ce que le réal voulait. En même temps, c'est un peu trop américain par rapport à la vision peut-être du scénario et même de la mise en scène. Et ce qui fait qu'à la fin, ça donne une espèce de film d'action qui est pas si mal foutu, mais qui soit manque de quelque chose, soit est trop.
Mais en tout cas, on peut pas lui reprocher de faire partie de ces cinéastes qui ont été invités à Hollywood, et il a quand même réussi à garder sa patte. Et ça, quand même, en faisant des Missions Impossibles 2, en faisant Hard Target, en faisant un film de John Woo, quand même, tu vois que c'est un film de John Woo. Il y a tellement de grands cinéastes étrangers qui sont retrouvés à Hollywood et qui sont devenus des espèces de yes man en puissance. John Woo, quand même, quand il shoot un film à Hollywood, c'est quand même, il est quand même là, quoi. Et d'ailleurs, figure-toi que je crois, je l'ai lu, je suis pas sûr, que Sam Raimi a été embauché par John Woo sur Hard Target notamment, justement pour faire le je sais pas si c'est le passe-plat, mais ou en tout cas pour discuter avec les producteurs exécutifs du film pour un peu faire le diplomate, quoi.
Okay.
Je sais pas à quel point c'est vrai, etc. Mais en tout cas, il a un rapport avec Sam Raimi qui est assez proche. Et je crois même que Sam Raimi a dirigé certaines scènes sur d'autres John Woo. À vérifier ce que je dis. Voilà. Mais c'est une collab intéressante.
Non, c'est vraiment les arcanes d'Hollywood où tu as des amitiés impossibles entre réels,
ouais,
que tu doutes pas. Et tu fais Sam Raimi et John Woo.
Mais il y a tellement de trucs comme ça. Exactement. Mais c'est comme Walter Hill et celui qui a réalisé Les Parapluies de Cherbourg.
Jacques Demy,
très ami.
Ah ouais.
Non, très ami. Ça, quand même, pour moi, c'est un des best.
Walter Hill, donc celui qui a fait Les Guerriers de la Nuit, ouais, qui a fait 48 heures, qui a fait des gros films d'action des années 80, un peu bourrin, un peu très pulp, en fait.
Ouais, ouais,
carrément. Qui est ami avec la Palme d'Or en mode comédie musicale, quoi.
Ouais.
J'adore.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, un des films préférés de Walter Hill, c'était Les Parapluies de Cherbourg. Enfin, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Et il m'avait raconté que Jacques Demy lui avait dit un jour, ils se baladaient ensemble ou ils bouffaient au resto ou j'en sais rien. Et Jacques Demy lui avait dit, mais vous, les Américains, vous avez créé un truc extraordinaire dans le cinéma et aujourd'hui, vous n'allez plus tout dans cette direction-là. Et c'est que c'est vous qui avez limité les films à 90 minutes. Et maintenant, vous êtes en train de complètement dépasser ce truc-là. Et c'est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'en fait, le cinéma européen, pendant longtemps, c'était des films un peu lents et longs. Et puis, le cinéma américain plutôt efficace. Et il y a un peu une inversion, je trouve, en ce moment.
De films trop longs, j'allais dire.
Bah, les films ricains durent tous 3 heures. Je sais pas, moi, j'ai pas vu Eddington et tout, mais maintenant, ça devient énorme, quoi. 2h45.
Beaucoup de films d'auteurs, mais c'est parce que les auteurs aux États-Unis, j'ai l'impression que soit ils sont en roue libre.
C'est de la folie, quand même.
Soit ils sont. Mais c'est un autre
mais les débat. Films d'auteur, mais même les films de super-héros et tout, enfin ça dure hyper longtemps, quoi. Mais enfin bon,
autre sujet.
Autre sujet, mais pas inintéressant non plus,
oui,
quoi.
C'est vrai.
Enfin voilà, en tout cas, Hard Target, film avec Van Damme, moi c'est un de mes petits films de cœur de Van Damme, quoi, on va pas se mentir. La course à cheval,
Je
la Winchester.
Mais c'est vraiment... c'est...
Moi,
c'est...
J'aime, j'aime.
Mais du coup, il y a vraiment que cette séquence. C'est la seule séquence que tu racontes et la séquence de moto.
L'arbalète, l'arc. Tout. On aime bien quand il y a des armes blanches avec Van Damme, quoi.
Ouais,
c'est des choses qu'on aime.
Je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas le. C'est pas... C'est... On va dire que en tant que John Woo, c'est vraiment le plus faible là, clairement.
Ouais, carrément. Mais en tout cas, toute cette ouverture sur les US, ça donne des choses très inégales. Mais il y a un film, il est quand même revenu au cinéma assez récemment. Il a fait un remake de The Killer, je ne l'ai pas vu moi, tu l'as vu le remake avec Omar Sy et...
En fait, tu as dit Omar Sy, et en fait j'ai fait bah non,
en bon,
fait.
Bah voilà. Bah, après, voilà. Il a fait un remake, c'est son dernier film en date, un peu bizarre de faire un remake de... Mais j'ai l'impression qu'il a juste envie de tourner. Mais avant ça, il a fait quand même un film, tu en as peut-être entendu parler, qui s'appelle Silent Night, qui est sur Amazon,
non.
Ou Netflix, qui est un film muet, d'action, de vengeance.
Ah ouais.
Excellent.
Pas vu.
Grand retour de John Woo. C'est pas au niveau de ses films des années 90, mais c'est vraiment bien. Il y a quelque chose un peu du jeu vidéo, mais c'est pas fatigant. Il y avait ça dans Hardcore Henry d'ailleurs. Je sais pas si tu l'avais vu ce film de Ian Eichhuller.
En FPS, en première personne.
Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Silent Night de mémoire, mais quoi qu'il y a peut-être du FPS aussi. Mais en tout cas, il y a un côté jeu vidéo assez fort, mais bon, c'est pas épuisant quoi. Enfin voilà, on va faire une petite pause musicale et puis après on parlera de The Killer, son chef-d'œuvre absolu.
Eh bien, je vais aujourd'hui, là je vais plomber un peu plus l'ambiance ou pas, je ne sais pas trop, mais je vais rendre hommage à deux musiciens qui sont morts là il y a très peu de temps. Je parle de Ozzy Osbourne et Bobby Whitlock. Alors Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, hein, celui qui a le chanteur de Black Sabbath. C'est vraiment un groupe et un homme qui a ouvert la voie à plein de générations, ils ont plus ou moins créé le métal, de toute façon... C'est vraiment un des, bah, c'est vraiment, c'était vraiment une des, pour moi une des dernières grandes légendes qui vivantes quoi du rock et de la musique en tout cas en partie de la musique que j'aime et je voulais lui rendre hommage en j'ai essayé en tout cas de trouver un morceau country et il se trouve qu'il y a toujours des gens un peu zinzin qui arrivent à reprendre des morceaux et donc là je vais vous passer Mama I'm Coming Home qu'il avait chanté en solo. Et je vais et avant de mettre ce morceau-là, bien sûr, je vais un peu parler aussi de Bobby Whitlock, qui était membre de Derek and the Dominos, hein, donc avec le morceau Layla, que vous connaissez peut-être avec Eric Clapton. C'était aussi un grand musicien studio. Hein. Dès ses 15 ans, il a joué avec des gens comme Albert King, grand nom du blues. Il a pu aussi travailler sur l'album de George Harrison, All Things Must Pass, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre du rock. En tout cas, un de mes albums fétiches. C'était un artisan vraiment très discret, un peu le contraire de Ozzy Osbourne finalement. Et lui, il a réussi à mêler un peu le gospel, le rock et le blues à un niveau que je trouve assez fort. Et aujourd'hui, j'ai essayé aussi de trouver un morceau un peu country. Et justement, le deuxième morceau qui passera, qui va passer, c'est Country Life. Bonne écoute.
Have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seem to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. Took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. Hurt so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone.
face 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah, 'cause mama, mama, I'm coming home.
But she's over in Roscoe's stall.
et vous êtes sur Aligre FM 93.1, Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Merci Charles pour ces deux morceaux fabuleux.
Merci.
On va évidemment...
Merci, je sais pas, merci, en fait je m'auto-remercie.
Remercie-toi, on va se plonger dans les discographies de ces musiciens et puis découvrir tout cet univers.
Bah, surtout Bobby Whitlock, et puis là c'était un peu la découverte de Ozzy Osbourne en country, mais Black Sabbath c'est quand même un grand groupe.
Alors, c'est donc un spécial John Woo aujourd'hui, hein. Vous le savez a priori déjà si vous êtes arrivé à ce minutage-là de l'émission. Et donc, on va parler de ce qui est considéré sans doute comme le chef-d'œuvre de John Woo. Je pense que nous, on a une petite préférence plutôt pour Hard Boiled.
Mais à 1000%.
À 1000%?
À 1000%, c'est Hard Boiled le préf.
Ok, pour mais bon, ce film, c'est The Killer, film de 1989, qui reste un très grand film.
Qui reste, non, un très bon film. Non, non, quoi qu'il arrive.
Alors, The Killer, extrêmement simplement... c'est l'histoire d'un tueur à gages qui essaye un peu qui par erreur au milieu d'un gunfight va faire perdre la vue à une jeune femme en tirant à côté de ses yeux, et il va tomber dans une il va s'en vouloir énormément, et puis c'est toute la relation qui va s'installer.
Oui. J'allais dire aussi que... Et en gros, pourquoi le film foire, c'est parce qu'il veut prendre sa retraite.
Ah oui, absolument.
Il veut prendre sa retraite et c'est là où les ennuis commencent. Et voilà. Effectivement, il y a tout le truc où il veut protéger la meuf, du coup.
Les ennuis commencent et en plus, il blesse quelqu'un d'innocent.
Mais ce qui est beau, c'est que toi, tu parles que de l'histoire d'amour, quoi.
Oui.
Mais c'est là où le film, je trouve, est assez intéressant aussi, hein, par ailleurs.
C'est mais ça. Moi, c'est... En fait, je ne l'ai pas revu. Il y a beaucoup de choses qui me restent de ce film. Mais il y a cette espèce de cœur quoi, profond, puissant, de cette grande romance qu'il n'y a pas dans Hard Boiled. Hein, vraiment, c'est plutôt comique, le rapport romantique dans Hard Boiled.
Il n'y en a pas. Hein.
Y a le petit rapport avec quand même son espèce de ex-femme qu'il essaye de reséduire.
Il n'y en a pas.
Mais voilà, il n'y en a pas. Tu sens qu'il a mis ça de côté et que s'il va à Hollywood, c'est pas pour faire des comédies romantiques. Quoi.
Non, non, clairement. Franchement, alors que vraiment, The Killer, c'est... après, bon, c'est pas non plus... tu chiales pas, mais ça se veut en tout cas plus émotionnel et plus romantique.
Et ça l'est.
À un certain degré, oui, ça l'est.
Moi, je trouve que c'est plutôt assez réussi quand même.
Oui, non, en global, c'est plutôt réussi. Oui,
bon,
oui.
C'est quoi ton rapport à ce film, alors?
Je dirais plus, assez homo-érotique, vraiment la relation, parce que du coup, y a, en fait, c'est presque un triangle amoureux, j'ai envie de dire, puisqu'il y a cette femme qui l'a rendu aveugle, je sais pas comment Jeff, il s'appelle,
ouais.
Dans le film le tueur à gages, et en fait, il est traqué par un flic, qui est un flic un peu chevronné, qui est un peu hard-boiled, justement, et qui, en fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, j'ai envie de dire. Et il y a une relation vraiment entre les deux qui ressemble beaucoup à la relation qu'aura De Niro et Al Pacino dans Heat, je trouve. Alors que ça sort vraiment quoi, 6 ans avant, du coup. Et vraiment, il y a cette relation entre le flic, le flic et le tueur à gages qui sont en fait ouais, vraiment... ils se ressemblent, ils pensent de la même façon, en fait, ils ont la même vision. En fait, ils ont étonnamment la même morale. Mmh. Et c'est ça qu'ils partagent. Et il y a une relation vraiment, ouais, une relation un peu homoérotique entre les deux qui est assez assumée dans le film, hein, et que je trouve assez chouette. Et puis pas mal de scènes d'action qui sont quand même, je trouve, moins virtuoses que Hard Boiled, mais parce que Hard Boiled, en fait, ça ne laisse place qu'à ça. Alors que là, il y a beaucoup plus d'émotions. Alors ça va dans la relation qu'il a avec cette femme, mais aussi il y a des scènes d'action avec la femme justement qui est aveugle, et il y a tout un truc, tout un jeu. Où les gens se pointent des flingues entre eux et en même temps la meuf elle voit pas, donc elle se demande ce qui se passe et ils essayent d'être très polis. Enfin, la scène est vraiment, celle-là, la scène elle est incroyable. Puis je vais pas spoiler la fin, mais la fin est je trouve très très touchante. Je sais pas si on va pas spoiler, mais vraiment il y a un rapport justement à la vue, il y a un rapport à les chemins qui se croisent, qui se séparent. Il y a plein de choses en fait qu'il a semé tout au long du film et qui se termine vraiment, enfin, d'une façon assez virtuose à la fin, où tous les arcs se rencontrent vraiment entre le flic, le tueur et la femme, et c'est assez beau, je trouve.
Et tu parles de scènes d'action qui sont moins virtuoses que Hard Boiled. Quand même, la scène d'attaque de la villa à la fin est dingue, mais dinguissime. Et moi, je me souviens de ce moment qui est, alors vraiment, c'est
où le mec il est en solo, tu veux
ouais.
dire
ouais, ouais, absolument.
Ah oui, je suis d'accord.
Ça, c'est hallucinant.
Je m'enfonce un peu dans mon canapé parce que, ouais.
parce que t'es d'accord. Ah ouais. Et y a un moment, alors c'est vraiment c'est une note de bas de page dans un bouquin, quoi. Mais il y a vraiment un moment incroyable où il y a un mec qui s'effondre sur une table et Chong Yufat lui prend la tête, prend un couteau de cuisine et lui enfonce dans le dos. Et je me souviens que, mais en one shot, quoi. C'est hyper brutal, c'est hyper rapide. Et je me souviens que quand j'étais gamin, je phasais devant cette scène. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'elle détonne un peu de tous les gunfights, et il y a un côté très réaliste qu'il n'y avait pas trop dans les gunfights. Enfin, les gunfights sont réalistes, mais c'est de la poésie presque, les gunfights. Non, mais
c'est beaucoup de boum-boum, c'est beaucoup voilà. De grandiloquence, quoi.
Je veux dire, les flingues, ils ont des chargeurs de 600 balles, enfin bon, tout ça. Mais tout ça, on accepte, quoi. Les fusils à pompe dans Hard Boiled, ça fait des explosions, voilà. Mais là, il y a cette espèce de parenthèse où il chope une lame et un couteau, il le plante dans l'omoplate du gars, et il y a un côté... C'est ce qu'on ferait, quoi. C'est normal, c'est réaliste. Je sais pas, moi, ça m'avait fait vriller.
Ça t'a bloqué.
Mais j'imagine qu'en le revoyant, c'est vraiment l'espace de 2 secondes, quoi. Mais,
oui,
mais...
Et complètement. Mais...
mais c'est très cool.
Mais c'est vrai que là, la scène que tu disais, c'est aussi une des scènes que j'ai préférées. Cette scène où un ami du tueur à gages, en fait, va pour récupérer de l'argent. Et vraiment, tu te demandes comment il va s'en sortir, le gars, parce que vraiment, il est foutu, quoi. Il est entouré de plein de gens, plein de méchants, on va dire. Et la scène, elle est mais tellement balèze. Mais c'est étonnant, c'est parce que en fait, on parle que de scènes d'action. Je ne saurais pas comment vous décrire qu'à chaque fois, alors que les scènes d'action, théoriquement, c'est un peu toujours la même chose. Hein. C'est des gens qui attaquent, des gens qui se défendent. Ils se cachent derrière un meuble, ils tirent, machin. Effectivement, les fusils à pompe, c'est des lance-roquettes. C'est un gros bordel, mais étonnamment, à chaque scène, il y a un nouveau rapport un nouveau rapport au territoire.
À l'espace.
Un nouveau rapport à l'espace, exactement. Un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport. C'est hyper intéressant de voir qu'à chaque fois, John Woo arrive à se réinventer, où d'un coup, ça va être un gunfight entre 3 personnes, puis juste entre 2 personnes, dans un endroit hyper exigu, puis un endroit très grand, puis après ça va être dans une église, puis après ça va être dans un... Et à chaque fois, comme ça, il va soit réduire l'espace, ou réduire le nombre de gens, ou agrandir, au contraire, et ça va donner de nouvelles fonctionnalités, et c'est...
C'est plein d'idées, ouais.
Toujours.
Et c'est jamais... Il n'y a pas un plan qui ressemble au précédent, c'est ça qui est fou, en fait. C'est d'une richesse visuelle, c'est un découpage monstrueux, t'as l'impression qu'il y a... Tu vois que tout est calculé et en même temps, on dirait que c'est presque parfois caméra à l'épaule à brûle pour point, mais c'est des heures de chorégraphie, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment la grande poésie du gunfight.
Ah oui, complètement là-dessus. Mais vraiment, moi, ça m'a fait du bien de voir ça. J'ai l'impression, encore une fois, que... Ouais.
Tu découvres quand même un réalisateur parce que tu connaissais ça. Quelques films sa partie US, mais tu connaissais moins sa partie hongkongaise. Tu vois, tu comprends quand même le respect et ce qu'il représente.
Ah oui, carrément. Bah, j'aurais adoré voir ça gamin, je pense. Vraiment, je me dis, merde, c'est dommage qu'on m'ait pas montré ça ou que je me sois pas intéressé à ça non plus. Hein. Vraiment, c'est vrai que c'est un cinéma qui... Moi, j'ai vu les films de Kung Fu, en fait, plutôt. Moi, j'ai vu les trucs de la Shaw Brothers. C'est ça qui me chauffait quand j'étais plus petit. Alors sûrement à cause aussi de Wu-Tang Clan et des groupes de rap de l'époque. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, il y a franchement, tu dis gamin, là, comme toi, tu les as vus. En fait je pense que ça m'aurait fait vriller. Mais comme Double Team, c'est juste parce que je l'ai vu à 8 ans et qu'à un moment, t'as Vandamme qui se bat contre un tigre. Tu vois
je veux dire. Là, tu m'as chauffé.
Bah ouais, non,
mais... j'ai jamais vu ce film, mais je l'ai en laserdisc. Mais là, tu m'as chauffé.
Ah, c'est vrai. Ouais. Il se bat avec un tigre dans le Colisée contre
Mickey
Rourke.
Stop. C'est trop intense pour moi. Ouais, on va se le mater. D'ailleurs, je l'ai acheté en DVD pour pas ouvrir le laserdisc. Ah ouais, bah ouais, bref, tout ça.
Mais en tout cas, ouais, c'est des films de pur bonheur et qui, en fait, même aujourd'hui, en fait, ils vieillissent pas, quoi.
Aligre FM 93.1.
Et il y a un truc qui est génial aussi quand tu commences à mater du cinéma hongkongais. Il y a un truc qui est vraiment, vraiment spécifique à ce cinéma-là et très puissant, et surtout chez John Ito, mais qui se retrouve aussi quand même à peu près chez tous ces réals, c'est que les acteurs sont toujours les mêmes, en gros, les premiers rôles. Et ça, c'est assez incroyable. C'est comme une grande compagnie de théâtre où tu vas retrouver vraiment Tony Leung, Chong Yufat, Anthony Wong. Et c'est toujours les mêmes. Mais il y en a une dizaine comme ça. Chez John Ito, c'est quasiment dans tous ses films, c'est les mêmes. C'est de la folie. Et résultat, ça crée un rapport presque amical à ces acteurs que tu connais, que tu as vu vieillir, grandir, que tu as vu dans 10, 20, 30 rôles différents. Et ça crée vraiment un truc de l'ordre de la compagnie de théâtre que tu suis, quoi. Et c'est très, très, très attachant. Et pour moi, c'est très spécifique au cinéma hongkongais. Encore plus Johnny To, mais c'est très fort dans ce cinéma-là.
Un truc très familial, tu veux dire ?
Très, très familial, ouais. Et tu sens aussi... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais après, c'est peut-être justement parce que moi, j'ai cet historique, mais tu sens qu'ils s'éclatent, les mecs, en faisant le film. Tu sens qu'ils ont un... qu'ils s'éclatent quand ils jouent les uns avec les autres, dans leur dialogue, dans leur réplique, dans leur scène d'action. Tu sens qu'il y a un truc fort. En tout cas, tu veux peut-être rebondir sur un truc qui t'a marqué par rapport à The Killer et Melville. Tu m'as tout de suite dit...
Ah bah non, mais est-ce que... Mais ça, mec...
En plus, c'est ton Melville préféré, je crois.
Est-ce que je te laisserai pas en parler, toi ? Parce que vraiment, moi, j'ai vu... Le premier Melville que j'ai vu, c'est avec toi. J'avais jamais vu de Melville avant le Samouraï. Et c'était il y a quelques années maintenant. C'était il y a plus de 10 ans, je pense. Non, pas 10... Bref,
mais
ça
non,
fait quelques 2018,
années. Mais non, 2018.
Oui, oui, c'est
chez Monte Hellman.
Mais pour moi, ça fait 20 ans.
En Blu-ray Criterion.
Exactement. Bref, et en tout cas, ouais, non, mais clairement, The Killer, c'est à 100% pour moi, ça ressemble vraiment à Hit. Et le personnage de Chow Yun-fat, c'est clairement Alain Delon, quoi. Mais ça se... Encore une fois, je connais rien du film, hein, mais ça se sent. Et toi, tu m'as dit après que c'était officiel.
Ouais, c'est officiel, c'est basé sur le samouraï.
Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, vraiment, tu vois le personnage, tu fais baisser la droiture, le mec qui sent tout, le mec...
Le code.
Ouais, le code d'honneur, mais même, tu sais, c'est le truc, genre, il va ouvrir...
Et le jazz bar. Ah non, pardon, tu parles de The Killer. Parce que là, dans le Hard Boy, il y a le jazz bar aussi.
Ah ouais, carrément,
et,
ouais.
Et le samouraï, évidemment.
Ah, c'est... Ouais, il ouais. y a ça, ouais. Mais tu sais, dans The Killer, le mec, il a presque un truc omnipotent, c'est-à-dire il va pour voir sa meuf, et en fait, avant de toquer, il sent qu'il y a le flic qui est derrière, et il attend comme ça, là, posé et tout. Et c'est vraiment des trucs où tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Et dans le samouraï, il y a ce truc-là, un peu de flegme, et le mec, il sait exactement comment tout va se passer tout le temps, il cadre, il est... Sauf que dans le Melville, bien sûr, le mec est assez froid. Mais d'ailleurs, l'appartement du mec The Killer ressemble beaucoup au truc de Melville, dans le sens où c'est un peu plus gris que le reste. L'endroit est assez vide. Il y a vraiment. Et d'un coup, bref.
Là,
je suis en train de me perdre dans mon propre fil de pensée. Mais d'un coup, dans le samouraï, il a aussi un petit canari qui est enfermé.
Bien sûr.
Et la scène d'intro de Hardboiled, c'est
sûr.
Quoi ? C'est que des pigeons partout, là, dans des petites.
C'est des canaris.
C'est des canaris dans un salon de thé où il y en a une chier, quoi. Donc, ouais, non, mais il y a plein de. Je pense qu'il y a plein de petits détails. Je pense qu'il y a plein de choses qui font partie, en tout cas. Du cinéma de Melville dans le cinéma
Mais de toute façon c'est même officiel et c'est ça qui est hyper stylé, moi c'est ça que j'adore aussi dans l'art en général et dans la vie plus généralement et dans le cinéma mais c'est vraiment Melville, voilà, Melville il est inspiré par les films américains des années 40, les films noirs et puis il crée son style qui est vraiment le cinéma le cinéaste français avec sans doute le style le plus radical, en tout cas un des styles les plus radicaux.
Et peut-être américain aussi. Hein,
très américanisé, avec des mecs qui ont des chapeaux. Alors, c'est pas le Stetson, mais ça va être le Borsalino. Mais bon, avec l'imper long. Enfin, on n'est pas sur des cols 45, mais on est sur des cols 1911, pour les connaisseurs. Qui est aussi d'ailleurs un col 45. Mais bon, un peu différent. On n'est pas sur un revolver, on est sur un automatique.
C'est Thomas, stop. Tu vas faire peur aux gens là.
Et donc Melville s'inspire de tous ces grands cinéastes américains et puis ensuite il crée son style et ensuite son style va inspirer à nouveau et des cinéastes américains type Michael Mann, etc. Et puis évidemment ça va s'exporter, ça va inspirer tout le cinéma hongkongais. Tous les grands cinéastes hongkongais se revendiquent de Melville et ça je trouve ça génial quoi. Et ça se sent vraiment beaucoup dans ces années là effectivement. Est-ce que tu veux ajouter des choses ?
Non, écoute, j'ai l'impression d'avoir tout dit de mon côté. Est-ce que toi, tu es satisfait de ce revisionnage ?
Oui, très très satisfait. Moi, j'ai adoré, j'ai pris un shoot énorme d'adrénaline. J'ai adoré, je trouve qu'on s'est mangé 2 heures d'action et j'ai pas mal à la tête.
Par rapport à Hardboiled, ouais.
Ouais, par rapport à Hardboiled. C'est celui-là que j'ai revu, moi.
C'est là on l'a vu ensemble, ouais.
Ouais. Et je suis hyper excité par cette ressortie en salle. Ne confondez pas The Killer avec le remake du même John Woo avec Omar Sy que je n'ai pas vu. Et il y a aussi évidemment, en tout cas, je n'ai vu que la bande-annonce, mais il y a Eric Cantona aussi dedans. Donc, il faudra quand même qu'on se le regarde.
Dans
le remake de The Killer de John Woo.
Franchement, Omar Sy, désolé, hein, mais
j'aime bien le plan sur Eric Cantona.
Il joue pas bien.
Et
c'est je balance. j'en ai rien à faire.
Et puis, ne confondez pas non plus avec The Killer, avec Fassbender de Fincher.
De Fincher, ouais.
Tu l'as vu celui-là ou pas?
Je me suis arrêté.
Ok, bon, il faudrait voilà. Quand même que je le regarde.
Ouais, ça m'a un peu ennuyé, j'avoue.
En tout cas, le hardboil de John Woo était quand même en sélection à Cannes Classic en 2025. Donc ça, c'est pas rien. Et je pense que tout ça est la raison pour laquelle le film ressort dans ces conditions-là. Donc foncez au cinéma le 27 août prochain, vous allez vous éclater et on y sera aussi.
Bah franchement, ça vaut le coup en tout cas.
En 4K remasterisé, ça vaut le coup. Et puis d'ailleurs, ça valait même le coup en DVD.
Oui.
Merci clairement. Beaucoup Charles.
Merci Thomas.
À la prochaine et merci à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous, c'était Popcorn et Banjo, 93.1 sur Aligre FM, la seule émission qui diffuse exclusivement de la musique country et qui parle de cinéma.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Aligre FM 93.1